France Musique.
Et nos invités ce matin sont Geoffroy Couteau, bonjour.
Bonjour.
Et Amaury Coeto, bonjour.
Bonjour.
Deux musiciens qui sont sur le disque, ce nouveau disque Brahms, qui paraît chez la Dolce Volta, deuxième volume de l'intégrale de musique de chambre. Alors Geoffroy Couteau, après l'intégrale pour piano de Brahms, vous poursuivez votre histoire d'amour avec le compositeur allemand et désormais sa musique de chambre. Deuxième disque après le quintet au printemps, c'était avec le quatuor Hermès. Amaury Coeto, on a le droit de citer d'autres quatuors que le quatuor Modigliani, dont vous êtes le premier violon, et vous-même vous faites une infidélité à vos amis musiciens ici avec cette autre formation. D'abord, l'un l'autre, alors il y a les trois trios violon, violoncelle, piano, et puis le trio clarinette, violoncelle, piano.
Avec Nicolas Baldero.
Nicolas Baldero à la clarinette et Raphaël Perrault au violoncelle. Quel premier souvenir l'un l'autre vous avez de Brahms, vous qui avez cette espèce de passion, je ne sais pas si elle est dévorante, Geoffroy Couteau.
Le premier souvenir de Brahms, je pense que c'était effectivement le premier trio, opus 8, qui m'a bouleversé et que j'écoutais beaucoup adolescent, dans la version de Katchen avec Souk et Starker. Voilà.
Bouleversé, pourquoi ?
Bah, c'est assez inexplicable. En tout cas, c'est ensuite un bouleversement qui aura fait que j'ai beaucoup cherché et que j'ai pas encore trouvé la question définitive à la réponse. Enfin, la réponse à cette question. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un univers qui me fascine et dans lequel j'ai un immense plaisir de jouer et de partager.
Et vous, Amaury, est-ce que vous avez cette passion, vous partagez cet amour? Ou c'est juste Geoffroy Couteau qui vous a dit viens.
Non, absolument. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, ça a été plus par les intermezzos pour piano seul. Donc voilà, chacun fait son cheminement. Et puis au fur et à mesure, on découvre tout ce qu'il y a autour, que ce soit les symphonies, effectivement, les sonates et les trios. Et c'est vrai que c'est une chance inouïe de pouvoir jouer des œuvres pareilles qui sont autant pétries d'amour, de tendresse, il y a tellement de choses dedans, c'est extraordinaire.
Sur ce volume, deuxième volume avec les trios de Brahms, on traverse sa vie puisque on a des trios vraiment de la fin de la carrière. Je ne sais pas si le mot carrière est très approprié, mais enfin de l'œuvre de Brahms. Et puis en effet, ça commence par cette opus 8 dont on va écouter le début. Ça vous a bouleversé, Geoffroy Couteau, mais c'est un début très 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 apaisé et serein.
Mais on y sent déjà la passion et surtout c'est une œuvre qui a été donc revue a posteriori puisqu'il a écrit, c'est une œuvre de jeunesse mais qui a été revue et donc je pense que ça lui donne une signature vraiment toute particulière dans son œuvre et qu'il la place dans les plus beaux trios jamais écrits.
Thank you.
Et voilà, et ça repart, le début du premier mouvement, du premier trio de Johannes Brahms, trio violon, violoncelle, piano, avec vous, Amaury Coeto, premier, enfin violon tout court, il n'y en a qu'un seul, Raphaël Perrault au violoncelle, et Geoffroy Couteau au piano, cet extrait de ce disque qui vient de paraître, il est tout beau, tout chaud, tout rouge et rose et violet, Johannes Brahms, deuxième volume, chez la Dolce Volta, vous jouerez d'ailleurs ces trios, samedi, Salle Gaveau, c'est le festival de ce label, de cette maison de disques, la Dolce Volta, concert à 20h30 pour les trios, puis il y aura des concerts tout au long de la journée avec des artistes qui enregistrent pour ce label. Vous disiez que cet opus 8, ce premier trio de Johannes Brahms, il l'a revu. Qu'est-ce qu'il a revu là dans cette musique?
Alors, il a changé quelques interventions déjà au violon au tout début, la forme, son indication de tempo, puisque c'était à la blanche et il l'a ensuite mis à la noire. Donc ce sont quand même puis beaucoup de petites choses à l'intérieur qui ont, je pense, amélioré la forme et sa force expressive.
Au final, elle a été plutôt raccourcie.
Et en plus, ça a été raccourci.
C'était plutôt raccourci, donc c'est vrai qu'on sent que chaque intervention, chaque nouveau thème est amené de façon plus, peut-être plus...
Imbriqué.
Ouais. Oui, imbriqué.
Cet enregistrement, il a été réalisé à Metz, l'Arsenal, cité musicale, où vous êtes en résidence depuis un certain nombre d'années, voilà, Geoffroy Couteau.
Ça fait la troisième année. Donc c'est vrai que là-bas, on a eu des conditions absolument idéales pour enregistrer notamment les trios, mais effectivement le reste de la musique de chambre. Et c'est bon pour cette musique, je crois, nécessaire de se donner tous les moyens pour obtenir quelque chose d'à peu près satisfaisant. Et c'est vrai que je remercie vraiment beaucoup l'Arsenal de nous avoir permis de réaliser ce projet dans de si belles conditions.
Dans une salle superbe. Superbe. Oui. On voit des photos d'ailleurs dans le disque qui vient de paraître et vous serez en concert d'ailleurs à l'Arsenal le 10 décembre. Ce disque d'ailleurs, comme tous les disques de ce label qui s'appelle la Dolce Volta avec quoi un petit scooter en logo, c'est un objet, disque, un vrai travail.
Oui.
Alors, ça existe encore des beaux disques.
Ça fait partie en plus du projet. C'est vrai que ce label. Mais un point d'honneur à ce que c'est, puisque finalement en fait on peut penser qu'à l'heure actuelle le numérique prend toute sa part, et peut-être que lui, ce label a continué de fabriquer des beaux objets, pensant qu'effectivement ça restait quelque chose d'important. Et je crois qu'aujourd'hui ça devient une nécessité en fait pour les gens de retrouver quelque chose de palpable. Et c'est vrai que c'est une concrétisation qui est plus satisfaisante que simplement un clic. Et ça redonne une valeur aussi au travail, parce que c'est vrai que pour les artistes d'enregistrer, c'est un grand investissement de temps et de vraiment c'est une grande charge de travail et de enfin il faut se rencontrer les uns les autres, partager quelque chose et aller au bout d'une idée, et ça se fait pas tout seul. Et c'est vrai que le numérique a tendance un petit peu à effacer tout le travail qu'il y a derrière, et c'est vrai que moi je suis très fier de faire partie de ce label qui continue de promouvoir et de mettre en avant que l'objet reste quelque chose qui ne disparaît pas et qui ne se réduit pas à un clic. Voilà.
Là par exemple, Geoffroy Couteau, Amaury Coeto qui est face à vous au violon, Raphaël Perrault au violoncelle, Nicolas Baldero à la clarinette. Comment vous vous êtes trouvés, choisis? Vous avez d'abord beaucoup jouer en concert ensemble avant de se dire on les enregistre, ces trios?
C'est vrai qu'il y a à peu près 10 ans, on a fait notre premier projet vraiment autour des trios de Brahms. Et puis musicalement, j'ai ce souvenir, j'allais dire non, puisque ça continue, mais à chaque répétition, d'avoir la sensation que chacun a toujours participé d'une façon... extrêmement positive et extrêmement enrichissante. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de répétition un petit peu rébarbative où on dit, bon, attention, telle mesure, c'est un peu difficile. Non, il y a vraiment, je trouve, un cheminement musical qui a été extraordinaire. Donc, c'est une très belle aventure. Et à partir de là, c'était évident, quelque part, de continuer jusqu'à ce beau projet.
On écoute un autre trio, beaucoup plus tard dans la vie de Johannes Brahms. Voici le presto, deuxième mouvement du troisième trio, c'est le plus 101. Presto non assai, extrait du troisième trio opus 101 de Johannes Brahms, Geoffroy Couteau au piano, Amaury Coëtto au violon, Raphaël Perrault au violoncelle. C'est sur ce disque, deuxième volume de l'intégrale pour musique de chambre, donc à suivre en cours chez la Dolce Volta. Le disque vient de paraître à l'instant. Qu'est-ce que Brahms fait ici dans une œuvre beaucoup plus tardive que la première qu'on a écoutée et qu'il ne faisait pas? Comment il a évolué entre le premier et ses derniers trios?
Je dirais que le dernier, il y a une densité dans la forme, tout va plus vite et on a l'impression que rien n'est gratuit, enfin également dans le premier trio, mais il y a une densification du discours et une harmoniquement quelque chose de plus fourni.
Et vous, Geoffroy Couteau, qui avez enregistré toute son œuvre pour piano, en même temps qu'il écrit pour le piano, il écrit de la musique de chambre. Est-ce qu'il dit des choses en musique de chambre, Johannes Brahms, qu'il ne dit pas forcément pour le piano seul?
Il le dit différemment, grâce au timbre, mais moi je trouve que la musique symphonique, la musique de chambre, la musique pour piano, elle est connectée. Même les leaders, on y retrouve vraiment une douceur. La production sonore y est très proche. Je trouve qu'on attend d'un orchestre une densité, une lisibilité et une douceur. On n'a pas envie de quelque chose de trop direct. C'est exactement la même chose pour la musique de chambre ou le piano seul. Donc c'est quelque chose qui est assez cohérent par rapport à la personne du compositeur.
Il est passionné, Amaury Coëtto, par son Johannes Brahms. Dites-moi, Amaury, vous êtes le premier violon depuis un certain nombre d'années maintenant, 3 ans du Quatuor Modigliani. Vous signez une décharge quand vous allez faire de la musique de chambre avec d'autres? Comment ça se passe?
Alors si, c'est vrai que
ça fait du bien, ça nettoie.
Déjà, c'est vrai que c'est un projet qui est un petit peu à part et qui avait en fait démarré bien avant le Quatuor. Il a plutôt été retardé par les débuts du Quatuor et il fallait s'investir complètement avec les Modigliani mais c'est un projet qui nous tenait à cœur. On a dit bon, on le garde, on le fait ensemble. On voulait vraiment vivre ces concerts et ces moments ensemble.
Et vos partenaires du Quatuor, ils voient ça d'un bon œil.
Vous leur demanderez.
Alors, Geoffroy, il y a quelque chose d'un point commun entre Raphaël Perrault, Nicolas Balderou et Amaury Coëtto dans son ancienne vie. Ce sont 3 musiciens qui ont joué dans des orchestres, dans des grands orchestres. D'ailleurs, 2 orchestres de cette belle maison, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et l'Orchestre National de France. Est-ce que ça donne quelque chose de particulier quand on joue avec des musiciens qui sont habitués à jouer en orchestre?
Je pense qu'il y a le point de départ, c'était d'abord cette entente musicale qui a été évoquée précédemment. C'est vrai que quand on se lance dans un projet comme ça, on cherche des gens avec qui on se sent proche musicalement pour pouvoir être libre de, puisque, comme je le disais, enregistrer quelque chose et surtout du Brahms, il faut se sentir légitime dans cette musique. Et je pense que c'est d'abord cette entente musicale qui est un peu indescriptible, enfin inexplicable. Et ça, c'était le cas avec ces gens-là. Donc c'est pour ça que on a choisi de le faire. Et c'est pas, enfin bon, après il se trouve qu'ils sont tous les 3 dans des orchestres, enfin ont été pour Amaury, mais en tout cas Raphaël et Nicolas, ils sont toujours au National et au Philharmonique. Et ce sont des phalanges prestigieuses. Donc ils sont habitués à travailler en groupe, à savoir ce que c'est que de produire quelque chose de qualité.
Il y a moins d'ego que quand on joue avec 2 solistes qui sont habitués à toujours jouer en soliste.
De toute façon, je pense que le problème de l'ego se rencontre quel que soit. Enfin, je pense que de partager, c'est aussi de diminuer son ego forcément. Donc, qu'il soit soliste ou pas, de toute façon, le musicien se doit de devenir humble. En musique de chambre.
Tiens, vous voilà en soliste, Geoffroy Couteau, avec un piano qui est un petit orchestre à lui tout seul dans cette danse hongroise de Johannes Brahms, bien sûr.
Thank you.
Elle est un peu coquine, elle est en fa majeur, cette troisième danse hongroise de Johannes Brahms, extraite de votre intégrale, Geoffroy Couteau, paru il y a quelques années, c'est la Dolce Volta. Ça fait du mal de réécouter quelques années après ce qu'on a enregistré.
Non, pas du tout. Non, c'est curieux, puisque ce sont des pièces que j'ai pas réécoutées depuis la sortie à peu près. Donc, voilà.
Vous n'avez jamais marre de Brahms, un dégoût parfois quand
sincèrement,
on...
non. Non. Non, mais c'est curieux, mais c'est comme ça, c'est vrai.
C'est une musique qui a été méprisée en France, en tout cas pendant il y a quelques décennies, hein, mais qui était considérée un peu comme allemande dans un mauvais sens, on va dire. C'est quelque chose que vous ressentez encore aujourd'hui?
Non, pas du tout. Non, j'ai pas l'impression. En plus, je trouve que cette musique est programmée quasiment partout. Donc, non, je pense que la page est réellement tournée de ça. Mais c'est vrai que ça a été longtemps un défaut qu'elle a traîné. On l'a taxé de compliqué et de lourde. Alors que finalement, justement, c'est peut-être parce qu'on lui donnait ce côté lourd, mais qu'elle n'a pas du tout.
Vous, en quatuor, avec le quatuor Modigliani, c'est quelque chose que vous jouez régulièrement?
Oui, on a joué, en fait, on a fait l'intégrale des trois quatuors de Brahms. Et c'est vrai que j'étais assez heureux, finalement, d'avoir eu l'occasion de jouer les symphonies, parce que c'est, pour la compréhension du texte, quelque chose qui aide énormément sur les timbres, des choses qu'on peut imaginer. Parce que de premier abord, c'est pas forcément si simple sur la partition, même si on a un petit peu l'habitude. Et voilà, c'est vraiment un univers, comme disait Geoffroy, que l'on retrouve quelle que soit la formation.
Les quatuors de Brahms que vous avez enregistrés
Qu'on n'a pas enregistré, mais c'est finalement là on a enregistré les sonates de Brahms, ça fait peut-être 20 ans qu'on les joue, et puis on se dit toujours que c'est trop tôt, puis bon, un jour on se lance, ça va être pareil pour les quatuors.
Alors vous disparaissez à Amore Coeto sur le dernier trio, et pour cause, il n'y a pas de violon, mais une clarinette, celle de Nicolas Baldero. Les œuvres de musique de chambre de Johannes Brahms avec clarinette font partie de celles qui sont peut-être les plus intimes, ou celles où on trouve le Brahms le plus, je ne vais pas dire pur, mais
le plus autonal.
On est vraiment dans les dernières années de sa vie. On associe d'ailleurs, on est en plein automne, on associe souvent Brahms à l'automne. Pourquoi?
À cause de la douceur et de la, enfin, il appelait ses dernières pièces ses berceaux de la douleur. Et je crois qu'il y a une forme de nostalgie, de mélancolie qui est très palpable. Et c'est vrai que quand il a entendu ce Münfeld, ce clarinettiste, ça l'a inspiré. Et il a voulu utiliser le timbre de la clarinette, qui est aussi, je pense, assez idéal pour exprimer ce type de couleur douce et expressive. Et c'est vrai qu'elle teinte un petit peu toute cette musique de la fin de Brahms. Mais on peut déjà la deviner dans les œuvres de jeunesse, hein, dans les ballades opus 10 de Brahms. C'est exactement le même univers sonore. Après, il est développé un peu différemment.
Allez, voici la clarinette de Nicolas Baldero. Vous lui en voulez pas, Amore Coeto, qui est Johannes Brahms, qui est
magnifique clarinettiste.
Remplacer le violon par la clarinette dans son dernier trio. Thank you. Andante Grazioso, troisième mouvement du trio pour clarinette de Johannes Brahms, Nicolas Baldero, à la clarinette Raphaël Perrault, au violoncelle Geoffroy Couteau, au piano. La suite, c'est sur le disque, deuxième volume de cette intégrale de musique de chambre chez la Dolce Volta, concert Salle Gaveau à 20h30, samedi 7 décembre, avec vous trois, Amaury et Geoffroy Couteau. Merci et Geoffroy, on vous retrouve tout seul à Metz le 10 décembre, à l'Arsenal, où vous êtes en résidence. Demain, notre invité sera un jeune et brillant violoncelliste aussi, Victor-Julien Laferrière à la technique. Aujourd'hui, Cindy Le Grumelec, Antoine Giraud, Salomé Coq, Charlotte Landru-Chandès et Margot Muller ont préparé cette émission réalisée par Davy Travailleur.
Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé, mes vacances c'est toujours Paris. Mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer.
Et là, Émilie et Rodolphe chantent en chœur. Si maman si, c'était Karine Dehaie qui chantait cette chanson, dont l'interprète originale était bien sûr.
France Gall.
France Gall, bravo, oui, vous avez gagné, Émilie Minera, comme nos gagnants du jour.
On va parler de l'orchestre de Seattle dans cette émission.
Oui, rien à voir.
Non, absolument pas. J'aurais eu du mal. Alors là, j'aurais du mal à trouver
entre
une transition.
France Gall et
là, j'aurais
Seattle,
pu essayer, ouais. Mais je ne me suis pas hasardée. Non. Ludovic Morlo le dirigeait avant et aujourd'hui c'est Thomas Dosgaard. Donc on va avoir le premier disque avec cet orchestre.
Eh bien, on retrouve aussi Marie-Cyan Sons, l'hommage à Marie-Cyan Sons toute la journée sur France Musique. À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.